Pour aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans 2 Timothée, chapitre 4. Et mon texte se trouve dans les versets 6 à 8. Et je voudrais parler avec vous concernant le bon combat que les serviteurs de Dieu ont à combattre. Le bon combat et voir pourquoi le ministère est comme un combat mentionné ici dans les Écritures. Mais lisons ensemble d'abord 2 Timothée chapitre 4 et le verset 6 où l'apôtre Paul écrivant à Timothée dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La semaine passée, on a parlé de ceux qui pensent qu'il faut garder la loi. Mais notez ici, j'ai gardé la foi. Donc ça, c'est une distinction vraiment importante que nous allons voir. Et le verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous rassembles encore afin de pouvoir étudier ta parole. Merci pour ceux qui écoutent. Et avant tout, nous demandons ton esprit de nous diriger dans nos pensées, diriger nos cœurs vers toi, vers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que tout ce qui est écrit ici, dans ta parole, est pour sa gloire et son honneur. Et notre désir, c'est qu'il soit honoré au milieu de nous. Mais nous avons besoin de cet esprit de grâce, afin que nous puissions comprendre tout ce qui est caché ici dans ta parole. Christ est la parole. Mais nous avons besoin de ton esprit, de nous ouvrir les yeux et les oreilles, le cœur, afin d'appréhender tout ce que tu révèles ici au sujet de ton Fils. Et pour cela, nous demandons cette grâce et nous te remercions d'avance pour tout ce que tu nous enseigneras encore à travers cette étude. Et c'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, qu'est-ce que Paul voulait dire ici quand il dit qu'il avait combattu le bon combat? Nous avons cette réponse dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 7. Et je vais revenir tout à l'heure sur le verset 6 où il parle ici d'être prêt à donner sa vie, servir de libation. Ça aussi, c'est un terme que nous devons comprendre ensemble. Mais quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce passage est bien connu et souvent cité par ceux qui lisent la Bible, mais à savoir s'ils comprennent vraiment le sens, comme pour nous tous, nous lisons parfois des versets sans comprendre le sens. Un verset qui me vient en tête, c'est Jean 3:16. Les gens aiment beaucoup citer ce verset sans peut-être comprendre le sens. Alors, nous voulons toujours que le Seigneur nous donne le sens. C'est évident, lorsque Paul écrit ici, surtout dans le verset 6, quand il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation », cela signifie que cette épître de 2 Timothée devrait être une de ses dernières épîtres. Nous savons, selon l'histoire de l'Église, que Paul est devenu martyr environ l'an 67. Donc, 3 ans avant la chute de Jérusalem, la destruction de Jérusalem par les Romains. Mais en lisant cela, alors, nous voyons ici une affirmation qui est profondément émouvante de la foi et d'un amour inflexible pour Jésus-Christ et pour son évangile. Et ce n'est pas la première fois que nous lisons cela, parce que dans Galates chapitre 1 et le verset 4, nous voyons cette même manière d'écrire quand il dit dans Galates chapitre 1, le verset 4, au sujet de la mort de Christ, quand il dit ici, par exemple, « J'ai gardé la foi », il ne veut pas dire qu'il a vécu une vie de perfection, cela est impossible, mais la foi est toujours la révélation de Dieu au sujet de Christ et Christ crucifié, de sa mort. Voilà ce qui est l'objet de la foi, c'est Christ. Donc, garder la foi signifie avoir son cœur sur Christ et uniquement sur Christ. On garde ce qui est précieux, garde ça pas simplement dans le cerveau, mais dans le cœur, en mémoire, comme Christ a dit au sujet de la table du Seigneur, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et nous voyons Galates chapitre 1 et le verset 4, combien la mort de Christ lui était précieuse. Il dit « qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. » Et ma prière, c'est que je sois comme l'apôtre Paul vers la fin de ma vie. On ne sait jamais. Peut-être aujourd'hui, c'est la fin. Je dois dire que nous devons chaque jour être prêts à servir de libation, cela veut dire à mourir pour la cause de Christ. Et jusqu'à notre dernier soupir, que nous ayons sur notre cœur et notre pensée qui il est et ce qu'il a accompli pour des pécheurs tels que nous sommes. Voilà une véritable foi. Nous ne sommes pas en train de regarder en nous-mêmes ou à côté de nous ou derrière nous pour essayer d'évaluer notre comportement ou bien notre pèlerinage. Non, nous regardons devant, vers Christ, et c'est vers lui que nous courons toujours. En Galates chapitre 2 et le verset 20, encore nous lisons ce témoignage de Paul, « J'ai été crucifié avec Christ. » Alors, on doit s'arrêter là un moment pour encore comprendre le sens. Il ne parle pas ici d'une expérience de tous les jours, être crucifié avec Christ, non, mais « J'ai été crucifié ». La manière que c'est écrit, c'est une fois pour toutes. Donc, le seul sens qu'on peut comprendre, c'est que Si Christ est mort pour moi, lorsqu'il est mort, lorsque lui, il a été crucifié, j'étais en lui déjà, quoique je n'étais pas encore vivant dans la chair, néanmoins, dans la pensée de Dieu depuis l'éternité, j'étais placé en Christ comme un élu. Et lorsque Christ est mort, donc j'ai été crucifié avec lui. Voilà notre espoir. Voilà le sens de garder la foi. Voilà la seule manière d'être prêt pour la mort, prêt à mourir. Les gens aiment poser ces questions. Est-ce que vous êtes prêt à mourir si aujourd'hui c'était le jour? Et puis les gens imaginent que, oh, il faut que j'aille maintenant me mettre à la prière et garder mes pensées pures et prêt. Comme Paul dit ici pour l'avènement de Christ. Nous savons que Christ viendra pour nous dans notre génération d'une manière ou d'une autre, que ce soit en venant dans le ciel pour prendre avec lui tous ceux qu'il a rachetés ou bien s'il vient me prendre dans la mort. Mais de toutes les façons, il viendra pour chacun de ceux pour qui il a payé la dette. Alors Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et je crois que peut-être une meilleure traduction au lieu de si je vis doit être lorsque je vis, puisque je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà le salut. C'est d'avoir l'esprit de Christ, la révélation de Christ en moi, qui est maintenant l'évidence qu'il est mort pour moi. Ouais. Quelle est la preuve? Je ne dois pas regarder à mes œuvres, mais la preuve que Christ est mort pour quelqu'un, c'est lorsque le pécheur regarde vers l'œuvre de Christ. Ça, c'est la différence. Beaucoup aujourd'hui professent être chrétiens qui sont en train de regarder aux œuvres de leurs mains et utilise ça comme évidence d'être enfant de Dieu. Rien ne peut être plus loin de la vérité qu'une telle pensée. La preuve de notre salut n'est pas dans nos œuvres, parce que nous sommes toujours des pécheurs, mais la preuve de notre salut, c'est en regardant à Christ. Voilà ce que lorsque j'entends des témoignages, j'écoute attentivement pour savoir qu'est-ce qu'ils disent de Christ et de sa mort. Parce que ça, c'est la vie de Christ qui est en nous, parle de Christ. Comment on peut avoir l'esprit de Christ en nous et ne pas parler de Christ et parler d'une manière qui est conforme à cette parole ici? Voilà encore une différence. Il y a des gens qui parlent de Christ, mais en entendant leur manière de parler, ce n'est pas conforme aux Écritures. Comment est-ce qu'on peut dire que Christ est comme il témoigne, pourtant ce n'est pas conforme à cette parole? Alors Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ou puisque je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, si je vis maintenant dans la chair, et c'est évident, nous continuons à vivre dans la chair. Cette chair n'a pas changé et ne sera jamais changée. La chair est la chair, ce qui est de la chair est chair. Mais si je vis dans la chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors, c'est ce combat dont Paul parle ici, de vivre dans la chair, mais dans la foi au Fils de Dieu. Et puis, il ajoute, qui m'a aimé. Beaucoup de gens aiment parler de leur amour pour Christ, mais ici, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, voilà le témoignage de quelqu'un qui garde la foi. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Mais la réalité, c'est que c'est un combat. Alors voilà ce que nous devons accepter. Et il y a un combat en dehors, mais il y a aussi un combat au-dedans. Parce que cette chair qui est en nous est toujours une chair pécheresse. Mais nous ne devons pas chercher à lutter avec cette chair comme si nous avons un certain pouvoir pour pouvoir gagner sur la chair. Non. La lutte, si vous voulez, c'est de regarder vers Christ et non pas à la chair. Voilà la lutte. Donc, cette lutte, ce combat sera durant toute notre vie. Paul, en écrivant dans Romains chapitre 7, parlait de ce combat. Et il reconnaît. Et en Romains 7, il est en train de parler en tant qu'un enfant de Dieu converti. Il n'est pas en train de parler avant la conversion. Il y a certains qui veulent faire croire que ce qu'il a écrit, c'était avant sa conversion. Non. Il dit dans le verset 17, « Et maintenant, vous voyez ça, maintenant, c'est au moment où il écrivait, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Notez, il ne dit pas « qui habitait en moi », mais « qui habite en moi ». Ce qui est bon, verset 18, « je le sais, n'habite pas en moi ». Alors, si quelqu'un commence à parler du bien en lui, c'est évident qu'il est encore perdu. Parce que un enfant de Dieu ne parlerait jamais du bien ou du bon, ce qui est bon, comme si ça habitait en nous. Il dit, c'est-à-dire dans ma chair, il dit, j'ai la volonté, et c'est Dieu qui donne cette volonté. Ma volonté, c'est de plaire à Christ en toutes choses et de glorifier son nom en toutes choses. Mais je dois dire que je n'arrive même pas à commencer à glorifier Christ de la manière qu'il est digne. J'ai la volonté, notez bien, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce n'est pas une excuse pour le péché, mais c'est une confession qu'en moi, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Et si nous imaginons avoir un certain pouvoir, de pouvoir convaincre ou vaincre le péché par nos méthodes, etc., je dois dire que nous sommes toujours dans l'aveuglement. Alors on peut poser la question, où est la solution? Paul le dit, verset 24, « Misérable que je suis !» Pour moi, j'écoute le témoignage de ceux qui se disent chrétiens pour savoir si ça c'est toujours leur témoignage misérable que, il ne dit pas, j'étais. Paul écrit ça, ce sont des paroles inspirées de Dieu. Misérable que je suis, nous ne cessons d'être comme le publicain dans le temple, qui frappait sa poitrine, qui n'osait même pas regarder vers le ciel, et qui priait que Dieu soit paisible envers moi qui suis pécheur. Misérable que je suis. Ça, c'est pas simplement qui sort de la bouche, mais c'est le témoignage du cœur. Et puis, il dit, « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Vous savez, dans l'ancien temps, lorsque les Romains prenaient des prisonniers, on les enchaînait ensemble, à deux. Et ces deux devaient faire tout ce qu'ils faisaient ensemble en tant que prisonniers. Et même si un de ces prisonniers mourait de faim ou de maladie, de soif ou autre, les gardes ne rentraient pas immédiatement pour détacher celui qui est mort de l'autre. Mais l'autre devait toujours être enchaîné à ce prisonnier mort, continué pendant la journée, partout où il allait amener le cadavre avec lui. Ça faisait partie de la punition. Et on peut se demander, mais quelle punition? Mais ça, c'est le sens dont Paul parle ici en écrivant, qui me délivrera du corps de cette mort? Tous les jours, nous continuons à vivre sous le fardeau de cette nature pécheresse qui est en nous. Et qui nous délivrera? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand il dit cela, ça signifie encore, j'ai été crucifié avec Christ. C'est lorsque le Seigneur nous donne des yeux pour regarder vers Christ et savoir que c'est à cause de sa mort, au calvaire, à la croix, que nous sommes délivrés. Alors, ça nous soulage sous le fardeau du corps de cette mort dans lequel nous vivons. Alors il dit, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Quand le Seigneur ouvre nos yeux pour regarder et écouter ce que dit la loi, notez bien, ça nous rend davantage esclaves. Cela veut dire, nous sommes sous la servitude, nous sommes sous le fardeau de cette loi et tout ce que ça condamne. Je ne suis pas libre quand je constate ce que dit la loi. La loi a été donnée afin que la bouche soit fermée. Tant que quelqu'un est toujours en train de bavarder et se justifier par rapport à la loi, donc pour moi, ça indique qu'il n'a pas encore vu la loi. Dieu n'a pas encore ouvert ses yeux pour comprendre le sens de la loi, parce que la loi ne peut que condamner. Alors, Paul dit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Cela veut dire, lorsque je lis la loi, je dois me soumettre à cette loi en disant, je suis pécheur. Et ça me condamne. Mais il dit, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, il est en train de dire simplement, n'importe où je regarde, j'entends la loi, j'entends ce que dit la loi, mais je n'ai aucun pouvoir en moi-même de satisfaire à cette loi. Et je comprends que j'ai une nature pécheresse, la chair. Tout est esclave, je suis esclave en moi-même. Donc qui me délivrera? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Cela veut dire, c'est sa mort, c'est ce qu'il a accompli à la croix, qui est le remède, le seul remède pour des pécheurs. Et nous vivons de cela tous les jours. Il n'y a pas un temps où nous pouvons dire, maintenant, j'ai assez grandi dans ma foi que maintenant je pêche moins qu'auparavant. J'entends certains qui imaginent cela, mais c'est une délusion. Ils se trompent en imaginant que en eux-mêmes, ils sont moins pécheurs aujourd'hui que ce qu'ils étaient lorsqu'ils ont, ils ont été, selon eux, convertis. Pour moi, c'est une, il faut mettre une grande un grand point d'interrogation sur leur conversion. S'ils imaginent qu'ils s'améliorent en quoi que ce soit, non. Il faut que Christ soit exalté et nous-mêmes, nous soyons abaissés dans cela. Alors voilà un de ces combats que nous avons, dont Paul parle, mais aussi il y a ce combat en dehors, c'est-à-dire ceux qui sont contre ce message. Vous voyez, ceux qui causent le combat, ce sont les ennemis de Christ. Je sais que certains aiment m'accuser d'être antinomien. Cela veut dire contre la loi. Non, personnellement, j'agrée. Je suis dans l'agrément avec ce que dit la loi. La loi me condamne et je suis condamnable. Donc, quand je confesse ce que je suis face à la loi, je ne suis pas contre la loi. Ceux qui sont contre la loi antinomiens sont ceux qui ont encore la bouche ouverte et qui imaginent qu'ils peuvent en quelque sorte obéir à cette loi, à la satisfaction de Dieu. Voilà ceux qui sont contre la loi parce qu'ils n'ont pas encore entendu ce que dit la loi. Mais peut-être les gens vont nous accuser d'être antinomiens, mais en réalité, ils sont eux-mêmes antichrist. Et je sais que c'est un terme que beaucoup diraient « Oh non, pas moi !» Mais en réalité, leur manière de raisonner, leur manière de lire cette parole et vouloir maintenant soumettre des gens toujours sous des lois et des règlements, au lieu de leur montrer ce que dit la Bible, que le remède est en Christ, et Christ crucifié seul, ceux-là sont antichrist. Et voilà le combat. Le mot grec que Paul utilise ici, quand il dit dans le verset 7, « J'ai combattu le bon combat », c'est le mot agonizomai. Donc on peut déjà comprendre l'agonie, combattre dans l'agonie. Ça signifie littéralement se livrer à un conflit difficile. Et on a vu déjà, ce conflit est en nous, à cause de notre chair. Si quelqu'un n'a pas ce conflit en lui, il n'a pas l'esprit de Christ. Ça, je suis sûr. Mais aussi le conflit avec ceux qui sont encore en dehors. Il faut savoir que lorsque Paul écrit ici à Timothée, il est en prison. Et il attend d'être décapité. Une exécution qui était appliquée sous l'Empire romain pour ceux qui étaient des citoyens. Alors, il doit s'attendre à perdre sa vie à cause de cet évangile. Je dois dire que ça, c'est vraiment quelqu'un, si quelqu'un tient, par la grâce de Dieu, face même à la mort à cause de l'évangile, c'est que le Seigneur lui a donné vraiment cette foi. Et voilà ce que je prie. Pour le moment, je ne suis pas face à une telle mort, mais peut-être que les jours viendront, on ne sait jamais. Nous avons certaines libertés maintenant de prêcher et annoncer cet évangile, mais le jour peut-être viendra où le Seigneur lui-même enlève cette liberté. Nous qui prêchons ce message, nous allons maintenant faire face à la mort. Ma prière, c'est que le Seigneur nous garde. Mais voilà la situation avec l'apôtre Paul. Et donc, combattre, j'ai combattu, comme il dit ici, le bon combat. Le mot est utilisé aussi dans le contexte d'une concurrence des jeux d'athlétisme où quelqu'un s'engageait à gagner la victoire, ou ça pouvait être aussi dans le sens d'un conflit militaire. Mais considérant que Paul était enchaîné ici, en prison, et il voit sa situation face à la mort. On peut dire, on peut savoir alors pourquoi il parle de cela comme un combat. Mais il faut savoir que ce combat n'est pas avec la chair et le sang. Ça, nous savons dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Et ça, c'est important, parce que parfois, quand ceux qui sont ennemis de la croix, ennemis de Christ, nous confrontent, c'est facile pour nous d'imaginer peut-être que le conflit, c'est entre deux personnes. Non. Il y a un combat spirituel dont Paul parle ici dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, c'est un conflit spirituel. Donc, nous ne devons pas imaginer que par nos raisonnements, nous allons convaincre l'ennemi. Donc, si quelqu'un maintenant est un ennemi de cet évangile ou un ennemi de Christ, donc nous devons, par la grâce de Dieu, tenir ferme en annonçant le message de Christ et Christ crucifié, qui il est, pourquoi il est venu, ce qu'il a accompli par sa mort, pour qui il est mort et où il est maintenant, il règne. Voilà les points principaux de l'évangile, et nous devons tenir ferme sur ces points, en annonçant toujours fidèlement l'évangile de Christ selon cette parole. Mais ce n'est pas à nous de convaincre l'autre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et nous devons savoir que cette lutte, ce combat qui existe en ceux qui sont encore contre nous, puisqu'ils ne peuvent pas voir Christ, ils sont contre nous. Néanmoins, la seule chose qui va les convaincre, c'est le même Esprit de Dieu qui nous a convaincus. Il faut se demander pourquoi aujourd'hui je crois à ce message de Christ qui n'est pas populaire. Je crois parce que l'Esprit de Christ m'a été donné et Christ s'est révélé en moi. Pas seulement à moi, mais en moi. Alors, ça va prendre cette même œuvre de l'Esprit dans l'autre. Mais jusqu'à là, si l'Esprit de Dieu n'a pas agi, cela signifie alors que l'autre qui nous contredit, qui est contre nous, en réalité, antichrist, cette personne agit de cette manière parce qu'ils sont encore perdus dans les ténèbres. Mais c'est une position que si quelqu'un n'est pas en Christ, donc il est l'ennemi de Christ. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas tolérer quelque enseignement que ce soit qui est contre ce message de Christ, parce que c'est contre la foi. La foi étant cette révélation de Christ au sujet de sa personne et sa mort. Et c'est pourquoi Paul traite cela sérieusement. Et je dois dire que c'est ce chapitre qui m'a beaucoup effrayé au départ, quand le Seigneur a commencé à œuvrer dans mon cœur, lorsque j'étais déjà missionnaire, imaginez. J'ai quitté les États-Unis pour aller en Afrique, pour prêcher ce que je croyais être l'évangile et pendant 4 ans, je faisais cela, et puis d'un coup maintenant, l'Esprit ouvre mes yeux à travers les Écritures, et je vois qu'en réalité, le message que j'annonçais était un message mixte. Ce n'était pas l'Évangile révélé ici. Et il fallait l'Esprit de Dieu d'ouvrir mes yeux pour que je comprenne. Comme Paul le dit, misérable que je suis. Alors, je prêchais tantôt la grâce, tantôt les œuvres. Voilà comment j'essaie de mener le combat. Mais, Galates chapitre 1, quand Paul parle ici de son étonnement, dans le verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous appelez par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alors, voici le combat. Parce que Paul était né dans une religion d'œuvre. Et il a lutté pour l'avancement de cette religion jusqu'à ce que le Seigneur l'arrête. Et maintenant, il parle comme s'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Soit tu es dans la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seul, ou bien tu as passé à un autre évangile. C'est si clair. Et voilà ce que les gens ne veulent pas comprendre. Ils vont dire que là alors vous êtes en train de nous juger. Simplement parce que nous ne sommes pas alignés avec votre manière de prêcher l'évangile. Ça n'a rien à faire avec ma manière de prêcher l'évangile. Que dit les Écritures? Paul dit clairement ici, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Comment est-ce que les gens se détournent si promptement? Ils entendent l'évangile prêché clairement au sujet de Christ et Christ crucifié, que le salut est en Christ seul, point. Mais maintenant, ils vont commencer à parler avec leur famille ou même un pasteur ou d'autres, en train de... Ils ouvrent une discussion. Discutons. Voilà le problème. Les gens veulent maintenant discuter sur l'évangile. Et chacun donne son opinion. Et voilà bien la confusion, non seulement dans la discussion, mais dans l'esprit de celui qui au départ entendait que non, ça c'est un message pur de la grâce de Dieu. Et ayant maintenant persuadé par ceux qui l'entourent, il abandonne le message de la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas facile de vivre une vie d'isolation. Je pouvais changer aujourd'hui, je ne pouvais pas parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me convainc de ce que je prêche, mais imaginez si je commençais à prêcher un message un peu plus populaire. Et je disais d'un côté, oui, c'est l'œuvre de Christ qui a accompli le salut, mais, et voilà d'où vient mais pour maintenir ce salut et pour vivre pour la gloire de Dieu ou bien pour prouver que je suis vraiment enfant de Dieu, je dois aussi mettre l'accent sur telle ou telle ou telle œuvre. Voilà les conditions maintenant qui rentrent. Ça, c'est le levain. Ça, c'est le poison dans le pot. Et Paul dit ici, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Notez, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Notez, pour passer à un autre évangile. Voilà ce que les gens ne veulent pas accepter. Ils veulent nous accuser d'être antinomiens, mais en réalité, ils sont antichrist. Parce que leur position les met maintenant en dehors de l'évangile. Ça, c'est effrayant. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ça, c'est un mot fort, renverser l'évangile de Christ. Quand quelqu'un veut ajouter quoi que ce soit à l'évangile de Christ, il renverse l'évangile de Christ. Il fait de cet évangile un autre évangile. Et voilà ce que Paul dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, quelle est ma règle de vie? Quelle est ma fondation? Sur quoi est-ce que je dois me baser pour vérifier si je suis toujours dans cet évangile? Quel est mon niveau? On prend le niveau quand on est en train de faire la construction d'une maison pour vérifier que tout est droit. Quel est notre niveau? C'est, Paul dit ici, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. Alors, on doit vérifier tout par rapport à cette parole, parce que c'est la seule base d'autorité que nous avons. Et c'est, je dois dire, c'est la seule autorité que je veux. Je ne veux pas imaginer que j'ai une droiture en moi-même. Je ne veux pas baser cette foi sur ce que quelqu'un d'autre me dit. Voilà pourquoi il faut faire attention aux commentaires des hommes. On peut lire ce que dit d'autres, mais cette parole met la lumière sur les commentaires des hommes. Et quel que soit l'homme, simplement parce que un commentaire ou bien un prédicateur dans le passé est bien apprécié par d'autres. Tout ce que nous disons, nous prêchons, doit être vérifié par ce qui est écrit ici. Autrement, qu'il soit anathème, condamné, condamnable, coupable, quel que soit le mot que vous voulez utiliser. Et maintenant, il dit, dans le verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Ouais, un combat ne cesse jamais. Et on doit devoir revenir sur ce sujet la semaine prochaine. Parce que ici, le combat dont Paul est en train de parler, c'est un combat à mort. Et c'est un combat aussi à vie. Cela veut dire pour toute la vie. Et c'est un combat pour l'éternité. S'il y a trois points que nous allons voir ensemble la prochaine fois, voilà les trois points. Mais quand il dit, verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà la distinction claire entre la grâce et les œuvres. Entre Christ et la loi. Christ n'est pas contre la loi, Christ a accompli la loi. Alors si j'entends ce que dit la loi me condamne, mais la loi révèle que c'est Christ qui l'a accompli à mon égard. Donc, si je fuis à Christ. C'est l'esprit qui m'attire à Christ. Et cette foi qui est le don de Dieu, révélé en moi, c'est la révélation de Christ en moi. Donc quelqu'un qui a la foi à Christ, c'est le synonyme de Christ. Et quelqu'un en qui est cette foi, révélée, parle de Christ. Ça c'est la manière que nous pouvons savoir que l'Esprit est en quelqu'un. On peut se demander, alors, mais si c'est si clair, pourquoi les gens ne voient pas? C'est parce qu'ils sont aveugles. Vous pouvez avoir une chambre bien éclairée, comme j'ai ici, beaucoup de lumière. Mais si je suis aveugle, mes yeux fermés, peu importe la manière que la lumière brille, je ne vois pas la lumière. Et c'est comme ça, ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est ça le sens des ténèbres. Laissez à leur sens réprouver. Ce message de Christ ne peut pas être appréhendé, accepté ou bien vécu par ceux qui sont perdus. C'est pourquoi Christ a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il dit, il faut naître d'en haut. Il n'était pas en train de donner un devoir à Nicodème. Il était en train simplement de faire une déclaration que Nicodème, pour comprendre ces choses, il faut naître d'en haut. Il faut que l'Esprit de Dieu lui-même révèle Christ en vous. Alors, voilà une raison pour laquelle les gens continuent à combattre parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Mais Paul souligne aussi Une deuxième raison ici dans Galates 1, 10, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Comme je disais, ceux qui sont encore dans les ténèbres, quoique religieux, mais perdus, ils ne peuvent pas vivre dans l'isolation qu'amène cette réalité d'être en Christ. Nous allons vivre une vie d'isolation, de séparation avec le monde, avec la religion. Ouais. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Pour ceux qui contestent contre cet évangile, la réponse est oui. Ils cherchent à plaire aux hommes. C'est pourquoi ils contestent. Parce que si réellement Christ était révélé en eux, ils cesseraient de vouloir plaire aux hommes ou bien de se joindre à ces organisations où Christ n'est pas fidèlement prêché. Il dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors voilà Paul, en prison, et prêt à donner sa vie à cause de l'Évangile, comme Jean, dans le livre de l'Apocalypse, même situation. Ceux qui ont vécu au premier siècle ont subi un temps de persécution que le monde n'a jamais connu, contre l'Église. Ce n'était même pas une génération séparée du temps où Christ est mort. Il a été crucifié. Au moment où Paul est en prison ici, ça fait simplement 37 ans de temps. Ouais. Et voilà la persécution qui vient à cause du nom de Christ. Mais tout cela est donné pour notre exemple, afin que aujourd'hui nous continuions par la grâce de Dieu à tenir ferme pour cet évangile unique. Et l'évangile est unique parce que ça vient de Dieu et ça donne toute la gloire à Dieu à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. L'homme n'a rien à ajouter à ce message de l'évangile. Ça, c'est le fondement est uniquement basé, placé sur le Seigneur Jésus-Christ et sa mort. Alors, en tant que croyant, par la grâce de Dieu aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, que nous ayons ce même sentiment que nous voyons ici de l'apôtre Paul, que nous soyons vigilants en toutes choses, à supporter les afflictions. Comme Paul dit à Timothée, on a vu dans le verset 5 de 2 Timothée 4, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Cela veut dire que ces points sont sérieux en ce qui concerne la gloire de Christ. Et de faire l'œuvre d'un évangéliste qu'on a vu la dernière fois. Ça, c'est la manière d'accomplir notre ministère, faire l'œuvre d'un évangéliste. Cela veut dire ne faire autre œuvre que d'annoncer l'évangile, cet évangile qui donne toute la gloire à Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais devoir m'arrêter là parce que le temps est passé, mais la semaine prochaine, je voudrais encore revenir sur ce sujet que l'apôtre Paul écrit ici à Timothée et avec quelle ferveur il annonce, persuadé qu'il n'y a pas d'autre voie à suivre que se donner sa vie pour cet évangile qui est toute sa gloire et de combattre. Comme je disais, nous allons voir ces trois points la prochaine fois. C'est un combat à mort, mais, ça c'est le verset 6, mais c'est aussi un combat à vie, quand il dit dans le verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est comparé à une course, j'ai gardé la foi. Mais c'est aussi un combat pour l'éternité, parce qu'il dit là dans le verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Nous allons parler de cela parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion au sujet de compensation, des récompenses, comme si nous sommes en train de vivre pour gagner des couronnes. Est-ce de cela que Paul parle ou bien quand il dit ici désormais la couronne de justice, notez, mais réservée. Il ne dit pas mais méritée, mais réservée. Réservée veut dire vous avez une réservation grâce à la volonté de Dieu et grâce à l'œuvre de Christ seul. Et cette couronne de justice, nous allons voir, n'est pas ma justice, je n'ai pas de justice en moi-même, mais la justice imputée à cause de l'œuvre de Christ. C'est ça qui m'est réservé. Une couronne, c'est la gloire d'avoir cette justice, mais à cause de Christ. Je commence déjà à prêcher le message pour la semaine prochaine, mais que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre et qu'il nous enseigne pour sa gloire et son honneur seul qui est en Christ.